Radio Okapi. Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième tranche de l'émission Okapi Service. Nous allons parler de l'amélioration de la gestion des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Et pour en parler, nous recevons Monsieur Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine des défenses des droits de l'homme AZADO. Monsieur Jean-Claude Katende, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Des questions et préoccupations. Le standard est déjà ouvert. Composez les 099 706 99 41. Écrivez-nous à service@radioocapi.net. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Polydor Bansung à la mise en onde. Jody Daniel Kachama au micro. Bienvenue à tous.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radioocapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radioocapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Bien, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE en RDC, a récemment publié son rapport qui met en lumière les revenus générés par les secteurs extractifs ainsi que les défis à relever pour améliorer la transparence et la gouvernance des ressources naturelles. Le gouvernement a réitéré son engagement à renforcer la transparence et la gestion des ressources naturelles lors de la 132e réunion extraordinaire du comité exécutif de l'ITIE. Des progrès ont été réalisés dans la divulgation des contrats et la publication des paiements, mais il y a encore des défis, notamment en matière des mises à jour régulières des informations et des luttes contre la corruption. D'ailleurs, une déclaration a été faite par la société civile à ce sujet. On en parle d'ailleurs aujourd'hui avec M. Jean-Claude Katende, qui est le président de l'Association africaine des défenses des droits de l'homme, AZADO. Encore une fois, ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Avant d'aller plus loin, pouvez-vous nous rappeler le contenu de votre récente déclaration?
Très bien. Je commence par vous remercier pour l'invitation à cette émission. Vous savez, comme vous l'avez dit, très récemment, la République démocratique du Congo a publié un autre rapport sur l'initiative des transparents des industries extractives. En fait, qu'il y a eu une initiative dont l'objectif est de partager des informations relatives au secteur extractif. Et après la publication de ce rapport, nous avons, nos sociétés civiles, constaté que il était important que nous puissions faire, en vue de la validation de la République démocratique du Congo en janvier de l'année 2026, parce que chaque pays est soumis à cette évaluation pour qu'on puisse voir si les exigences de la norme ITIE sont respectées par ce pays-là ou pas. La République démocratique du Congo devrait être soumise à cet exercice au courant de cette année, mais pour certaines raisons, cette évaluation a été renvoyée à l'année prochaine. Et entre-temps, vous savez que l'ITIE est une initiative tripartite, où vous avez le gouvernement, disons les institutions publiques. On ne peut pas parler du gouvernement dans la mesure où vous avez aussi les Sénats et l'Assemblée nationale qui sont représentés. Et d'autre part, vous avez les industries extractives et vous avez la société civile. Nous avons voulu, en fait, à cette occasion de l'atelier que nous avons eu la semaine passée, évaluer notre participation en tant que société civile à la mise en œuvre de l'ITIE. Mais nous avons constaté qu'avant de le faire, il était important de regarder de manière générale comment l'ITIE fonctionne en République démocratique du Congo. Mm-hmm. Et nous avons soulevé un certain nombre de préoccupations.
Et comment l'ITIE fonctionne ici?
Oui, c'est en fait ces préoccupations qui vont vous montrer l'état dans lequel l'ITIE se trouve aujourd'hui. Okay. Premièrement, c'est que le gouvernement de la République démocratique du Congo, vous l'avez lu, continue à affirmer son adhésion à l'ITIE et sa volonté de mettre en œuvre les exigences de l'ITIE. Mais il faut constater que depuis 6 mois, le gouvernement ne verse aucun rond au fonctionnement de l'ITIE, ni pour, en fait, prendre en charge les personnels de l'ITIE, les bureaux de l'ITIE, mais aussi pour, en fait, déployer des activités sur terrain. 6 mois que l'ITIE ne reçoit aucun rond de la part du gouvernement, tout simplement parce que les ministres des Finances et les ministres du Budget ne sont pas assez attentionnés par cette initiative importante pour notre pays.
L'ITIE dépend du ministère du Plan.
L'ITIE dépend de la première ministre, mais c'est lui qui gère l'ITIE au quotidien, c'est le ministre du Plan, secondé par les ministres de l'Environnement et les ministres des Mines. Mais nous avons aussi constaté que, au-delà du fait que le gouvernement ne donne pas l'argent, il y a un décret, le premier décret de l'ITIE qui a été signé depuis 2009, qui est en déphasage avec la norme ITIE et les pratiques même au sein du comité exécutif. Les comités exécutifs, c'est cet organe, en fait, qui gouverne l'ITIE, la mise en œuvre de la norme en République démocratique du Congo. Et ce décret, on a commencé la discussion pour sa modification depuis 2012. Une monture avait été proposée au premier ministre précédent, qui n'a jamais été signée. Et aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte que 13 ans après, on continue à discuter du même document et aucun premier ministre n'a été à mesure de les signer. Les raisons ne sont pas connues. Et ça, ça handicape la mise en œuvre de l'ITIE en République démocratique du Congo. Donc, au-delà de ces questions, il faut relever le fait que la société civile elle-même, qui doit participer de manière indépendante, active et efficace, nous voyons qu'il y a l'espace civique, c'est-à-dire l'espace de droit et liberté qui permet aux organisations de la société civile de s'exprimer sur les questions qui concernent les industries extractives, qui se réduit de plus en plus. Nous avons eu des journalistes qui travaillent avec nous dans le Haut-Katanga qui ont été arrêtés. Un rapport avec leurs activités sur les industries extractives.
Pourquoi? Parce que ceux qui exploitent les minerais ne veulent pas du tout... Que les informations soient divulguées.
Non, mais les journalistes qui ont été arrêtés, c'est par l'ANR, notamment dans la ville de Lubumbashi. Ça, c'est pas les industries extractives. Mais je sais aussi que, à certains moments, certaines entreprises peuvent manipuler certains agents de l'État pour qu'ils posent des actes contraires à leurs devoirs. Et là, c'est pas les entreprises. Mais par contre, nous avons un cas d'un de nos amis, Monsieur Martin Mwambe, à Fungurume, qui est victime de représailles de la part de l'entreprise TFM, mais aussi de la commission qui a été mise en place pour déplacer les habitants de l'endroit du quartier où l'entreprise Tenke Fungurume a construit son usine qui fabrique l'acide. Dans cette commission, on a identifié un certain nombre d'actes de corruption que notre collègue a dénoncé. Et aujourd'hui, il vit presque...
En clandestinité.
Ne disons pas en clandestinité, mais il n'a pas la possibilité de se mouvoir facilement. Il est cloîtré chez lui à la maison. Parce qu'il subit des menaces de toutes parts. L'Assemblée provinciale de Lualaba a été saisie de la question, mais n'a apporté aucune solution. Et les personnes qui ont été mises en cause dans ces dossiers de délocalisation... Des victimes, n'est-ce pas, de cette usine de Tenke Fungurume, n'ont jamais été inquiétés et continuent à siéger dans cette commission normalement.
Et alors, on peut dire que la société civile dont vous faites partie est aussi membre de l'ITIE.
Effectivement, comme je le disais dans mon introduction, l'ITI est composé de trois parties prenantes. Les institutions publiques, dont le gouvernement, les entreprises et la société civile. Et nous, nos organisations et nos membres, nous avons 5 membres qui nous représentent au comité exécutif. Mais l'évaluation de ces processus appartient à toute la société civile. Parce que, comme vous le savez, c'est la société civile qui a poussé au niveau international pour que M. Tony Blair, en 2002, puisse prendre l'initiative à la conférence sur le développement durable en Afrique du Sud de lancer cette initiative. En fait, on a constaté que les pays, par exemple, comme la République démocratique du Congo, un pays très riche en ressources naturelles, et quelqu'un a dit il y a quelques années que c'était un scandale géologique. Mais en fait, le Congo est aussi un scandale de pauvreté. Comment pouvons-nous comprendre qu'un pays aussi riche ait des populations qui manquent du courant, qui manquent de l'eau potable, nos routes sont dans l'état où vous et moi nous connaissons, et nos écoles n'en parlons même pas.
C'est à cause de la mauvaise gouvernance, mauvaise gestion des ressources que nous avons.
Exactement, mais il faut aller au-delà. C'est le fait que pendant plusieurs années, le secteur extractif de la République démocratique du Congo a été géré entre l'État et les entreprises. Les citoyens étaient totalement exclus et les informations du secteur n'étaient pas rendues publiques. En sorte que les citoyens ne pouvaient pas facilement demander des comptes à l'État tant qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Mmh. Et l'ITI a cet avantage, comme vous l'avez dit, de publier chaque année un rapport dans lequel vous avez une partie qui est consacrée au contexte de l'exploitation minière, pétrolière, mais aussi forestière, et vous avez une autre partie qui est consacrée aux flux financiers. C'est que l'État reçoit des entreprises minières et pétrolières, et c'est que les entreprises payent. Et ces informations nous permettent, nous, les citoyens, de pouvoir demander des informations. Or, le contexte de la fois passée, comme vous l'avez dit, effectivement, l'absence, l'opacité dans la gestion du secteur des ressources naturelles a conduit à la pauvreté que nous avons aujourd'hui, ce qu'on appelle souvent les paradoxes de l'abondance. Les pays les plus riches sont aussi les plus pauvres. Oui. Ça ne se comprend pas. Et donc, c'est dans ce contexte-là, on a dit qu'il faut associer les organisations de la société civile qui sont proches des populations pour qu'elles suivent ce qui est en train de se faire. Mais pour le faire, il faut que le gouvernement qui est membre de l'ITI garantisse la liberté d'expression aux citoyens. Et les citoyens doivent s'exprimer de manière libre sur toutes les questions qui concernent les ressources naturelles.
Oui. Alors, Jean-Claude Katendel, le dernier rapport affirme qu'il y a des progrès qui ont été réalisés, par exemple, les contrats sont maintenant divulgués, publiés, quand même, il y a des avancées de ces côtés-là.
Vous avez parfaitement raison. Vous savez qu'il était difficile dans ce pays d'accéder aux contrats. Au contrat minier, pétrolier, mais aussi aux licences, aux permis. Mais aujourd'hui, grâce à l'ITI, nous ne disons pas que tous les contrats sont publiés. Mais plus de 80% des contrats sont déjà publiés sur le site, n'est-ce pas, de l'ITI ou les sites du ministère des Mines ou les sites du ministère des Hydrocarbures. Mais le problème, c'est que il faut maintenant que ces contrats soient utilisés par les citoyens pour, en fait, comprendre qu'est-ce qui est dans ce contrat. Et ça, cette capacité d'analyse doit faire l'objet d'une formation particulièrement chez les acteurs de la société civile. Parce que l'ITI est poussé principalement dans tous les pays à travers le monde par la société civile. C'est elle qui veut plus de transparence. Oui. C'est elle qui veut que les contrats soient publiés pour que les citoyens, en fait, qui sont les propriétaires. Hein, vous avez appris que aujourd'hui notre gouvernement est en discussion avec les Américains pour, n'est-ce pas, exploiter certaines mines dans notre pays. Mais les citoyens ne sont pas informés. Ce sont les médias extérieurs à notre pays qui parlent de ces questions alors que nos propres autorités s'étaisent. Or, les ressources naturelles appartiennent aux Congolais. Les ressources naturelles n'appartiennent pas au gouvernement, n'appartiennent pas aux responsables politiques que nous avons. Les ressources appartiennent aux citoyens. Et il faut donc, parce que cela est très important dans la mesure où, si par exemple on donne une partie de nos ressources aux Américains aujourd'hui, si plus tard il y a des conséquences, parce que les accords ne sont pas respectés, ça va retomber sur qui ? Pas sur les dirigeants, ça va retomber sur les communautés. Qui sont directement impactés positivement ou négativement par
donc
l'exploitation.
Donc le peuple a besoin d'avoir de l'information.
Exactement. Mais nous, on apprend par d'autres médias. Heureusement qu'aujourd'hui, la radio Capi me donne l'occasion de pouvoir soulever ces questions. Les présidents de la République lui-même et les membres de son gouvernement, ceux qui sont partis négocier aux États-Unis, ferait mieux de rentrer, par exemple, auprès de l'Assemblée nationale pour dire qu'on est en discussion et ces discussions vont dans tel sens ou dans tel autre. Mais tout s'est fait dans une opacité totalement totale.
Et donc, c'est ça voilà le principe de redevabilité.
Exactement. Et l'ITIE, c'est un processus qui est basé sur la bonne gouvernance, mais aussi avec un aspect de redevabilité. Parce que le rapport nous permet, nous, les citoyens, de comprendre les flux financiers que le gouvernement a perçus et éventuellement de poser des questions. Vous avez eu autant d'argent de tel secteur, mais à quoi cet argent a servi ?
A servi, oui.
Voilà un peu. C'est pour ça que nous avons fait l'évaluation de la participation de la société civile à l'ITIE et nous avons constaté notamment ce qui ne fait pas fonctionner bien le comité exécutif, c'est le fait que l'ITIE, dans son exigence 1, exige à ce que les hautes autorités du pays, ici il s'agit notamment des ministres, qui doivent participer aux réunions de l'ITIE. Mais nous voyons aujourd'hui que la tendance est que les ministres ne sont pas disponibles et qui sont directement concernés, mais laisse des fois leur place à leurs conseillers, qui n'ont aucun mandat au regard de l'ITIE de pouvoir représenter les ministres. Les ministres doivent être représentés eux-mêmes, et si un ministre a besoin de s'absenter à une réunion du comité exécutif, il doit pouvoir donner mandat à un de ses collègues qui est aussi membre du comité exécutif. Et la tendance actuelle risque de coûter de points à la République démocratique.
Et les réunions, les rencontres se tiennent combien de fois par
Une fois par mois.
Une fois par mois.
Une fois par mois.
Ok. Pour faire le point de tout ce qui se passe dans les secteurs extractifs.
Oui, faire le point, mais il faut dire que l'ITIE a un tableau de bord qu'on appelle le plan de travail. C'est ce plan de travail qui prévoit en fait toutes les activités qui vont pouvoir
se déployer. La descente sur terrain, la collecte des informations.
Exactement, tout ça. Mais il faut comprendre que dans le contexte de l'ITIE, ce sont les entreprises. L'ITIE envoie des formulaires de déclaration aux entreprises et aux régies financières. Ici, la DGDA, il y a la DGI, il y a la DGRAD, mais il y a aussi les directions provinciales. Mais n'oubliez pas que aujourd'hui, on a étendu ce périmètre des déclarations, notamment aux entités territoriales décentralisées, qui reçoivent une partie de la redevance minière, qui doit pouvoir aussi déclarer à l'ITIE pour que les informations dont l'ITIE doit disposer et qui doit faire l'objet, n'est-ce pas, de publication dans le rapport, soient des informations exhaustives, mais aussi des informations fiables. Et la question des fiabilités pose la question de savoir est-ce que les rapports qui sont publiés par l'ITIE sont dignes de confiance. Et là, l'ITIE a mis en place un mécanisme de fiabilisation des données, tant du côté des entreprises que du côté des régies financières.
Donc vous avez mis en place un mécanisme de vérification. Toutes les déclarations qui sont faites, vous avez le temps d'aller vérifier.
Oui, en fait, du côté par exemple des entreprises, les déclarations qui sont faites à l'ITIE, leurs données doivent être tirées d'abord de comptes financiers des entreprises qui ont fait l'objet d'un audit.
D'accord. Un instant, on va accueillir les auditeurs. Éminent Mwanda est en ligne depuis Bukavu et puis Ismaël Mumpoy de Lubumbashi. Éminent, bonjour et quelle est votre question ?
Bonjour, merci aujourd'hui. Bonjour à tous.
Oui, quelle est votre question?
Ma question est de savoir les initiatives sont initiées. Est-ce que c'est temps de danser dans la RDC? Parce que c'est que le cordon de l'histoire a en train de révéler là-bas. Le Congo est en train de connaître le sérieux problème de la gestion de la chose publique. Parce que les dirigeants croient que tout ce qui est dirigeant leur appartient. Nous avons certains exemples de témoignages de Pouty à Bukavu. On a assisté le phénomène des Chinois qui sont à Pouty avec des numéros ici à Bukavu.
Désolé, Mina, on vous écoute difficilement. Il y a un bruit de fond désagréable qui ne nous permet pas de bien capter ce que vous dites. Entre-temps, on va accueillir Ismaël Mupoy de Lubumbashi. Bonjour Ismaël. Ismaël n'est plus là, voilà, désolé. Éminent non plus, son téléphone, je ne sais pas si... Éminent, vous êtes toujours là? Voilà, il n'est plus là, il n'a pas eu le temps de poser sa question. Bon, j'ai pu comprendre, voilà, vous publiez les rapports, mais là-bas, de l'autre côté, le Kivu, etc. Bon, il y a aussi beaucoup d'exploitation minière, et d'ailleurs, la guerre actuelle, on dit que c'est... Les envahisseurs, les agresseurs, c'est beaucoup plus pour le contrôle des minéraux et des ressources extractives de la RDC. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
Oui, il faut relever que dans l'intervention de notre ami éminent, il a voulu mettre l'accent sur ce que je disais précédemment concernant les propriétaires des mines, des ressources naturelles du Congo. Ce ne sont pas les autorités qui sont propriétaires des mines du Congo. Malgré que, de temps en temps, elles qui sont des mandataires se comportent comme si elles étaient des propriétaires des mines. Et des fois, nos autorités associent même leurs familles dans l'exploitation illicite des mines. Et ça, c'est une grande préoccupation. Donc, il est important que les autorités, comme les citoyens, comprennent que les mines du Congo appartiennent d'abord aux Congolais et aux Congolaises. C'est ce qu'il a voulu.
Est-ce que dans les rapports de l'ITIA, on retrouve, on vous dénonce aussi ces genres de choses?
Oui, bien sûr. Les rapports de l'ITIA met en évidence les défis, notamment, qui entravent la transparence. Parce que pour nous, la transparence dans le cadre de l'ITIA, c'est un aspect très important dans le sens que il faut que les informations du secteur extractif soient mises à la disposition des citoyens. Je pense que c'est ça la préoccupation. Et quand vous allez, par exemple, dans le nord Kivu, comme dans le sud Kivu, vous allez vous rendre compte que c'est plein de Chinois là-bas. En sorte que l'exploitation de l'or est contrôlée par les Chinois dans tous les petits villages là-bas au sud Kivu. Les citoyens se sentent exclus. Et quand vous regardez, par exemple, dans les zones d'extraction, il y a trop peu d'investissements du gouvernement dans toutes ces zones. Et la situation est la même là où se fait l'exploitation artisanale, comme à l'est du Congo, mais aussi comme dans les zones où il y a l'industrialisation des mines, dans le Haut-Katanga comme dans les Lualaba. Quand vous allez rencontrer les communautés, elles vivent dans un état de pauvreté extrême, en sorte que toutes les revendications des communautés sont tournées vers les entreprises au lieu qu'elles soient tournées vers l'État. Parce que la première activité de l'entreprise, ce n'est pas de faire des actions socio-économiques pour les communautés, c'est d'exploiter et de payer les taxes.
Ben, ils ont aussi ce qu'on appelle la responsabilité sociétale.
Et exactement. Mais ça, c'est pas l'activité principale pour laquelle une entreprise, c'est un investissement, ils viennent faire des affaires. Mais en même temps, on veut, comme on sait qu'il n'y a pas une exploitation de ressources naturelles qui soit à risque zéro. Il y a toujours des impacts négatifs. Et comme il y a des impacts négatifs de l'exploitation, il est clair que l'entreprise ait certaines responsabilités vis-à-vis des communautés. Mais la responsabilité...
Notamment construire les écoles, les routes, les ponts, les hôpitaux...
Oui, exactement. Ça. Et aujourd'hui, c'est une obligation du code minier pour que chaque entreprise qui s'installe en République démocratique du Congo et qui commence l'exploitation puisse avoir un cahier des charges avec la communauté.
Bien, on va accueillir Olivier depuis Kisangani. Bonjour.
Bonjour, bonjour, merci aujourd'hui. Bonjour à notre invité ainsi qu'à tous les conditionneurs de cette radio.
Quelle est votre question, Olivier?
Merci. La question qui tourne autour de que faire pour améliorer la gestion de nos ressources humaines, de nos ressources naturelles, voulais-je dire. J'ai une contribution, mais aussi il y aura une question juste à la fin de mon intervention. Et là, mon analyse va sur trois points principaux.
Bon, c'est mieux de passer directement. C'est mieux de passer directement aux questions.
C'est mieux de passer à la question, voilà. Ah, ok, c'est bon. Mmh. Et alors la question, les questions que j'aimerais poser à notre invité, c'est de savoir comment faire une très bonne gestion des ressources humaines de chez nous en RDC. Voilà, c'était l'ingénieur Olivier Doumba Ilagou à Kisangani. Merci.
Voilà, vous dites comment faire une très bonne gestion des ressources naturelles, c'est ça?
Ok, de chez nous en RDC.
Merci beaucoup, Olivier. On va accueillir Élise Kavira, qui est avec nous dans ces studios. Bonjour, Élise.
Bonjour, Jody.
Qu'est-ce que les internautes disent par rapport à la gestion des ressources naturelles de la RDC?
Alors, Jody, nous avons Blaise Saïdi Atoubou depuis Kisangani qui dit « Pour améliorer la gestion des ressources naturelles en RDC, il est essentiel de renforcer les institutions de la gouvernance, d'encourager l'exploitation durable, d'investir dans les capacités humaines et d'impliquer les communautés locales. La transparence, la lutte contre la corruption et le développement des partenariats stratégiques jouent également un rôle crucial pour s'assurer que les richesses naturelles de la RDC bénéficient à ses citoyens et son développement durable. La RDC possède d'immenses richesses naturelles, mais leur gestion reste problématique en grande partie à cause de la mauvaise gouvernance, de la corruption et des conflits. Nous avons également Thomas Eugène Avossi depuis Kisangani qui dit l'amélioration de la gestion des ressources naturelles en RDC est essentielle pour garantir la durabilité environnementale, la stabilité économique et le bien-être des populations locales, en renforçant la gouvernance, en faisant respecter les lois, en impliquant les communautés locales, en promouvant les pratiques durables, en développant l'économie verte, en renforçant les capacités et en collaborant à l'échelle internationale, la RDC peut progresser vers une gestion plus efficace et équitable de ses ressources naturelles. Il conclut en disant, il est impératif pour les autorités congolaises, les acteurs locaux, la société civile et les partenaires internationaux de travailler ensemble de manière synergique pour mettre en place des initiatives et des politiques favorables à une gestion durable des ressources naturelles. À notre fidèle auditeur de Okapi Service, Georges Kilangalanga depuis Bunia dit, la gestion des ressources naturelles en RDC fait face à beaucoup de défis. Ces défis sont liés aux problèmes structurels, au manque d'application des lois et à la corruption principalement. Nous chutons avec Ismaël Moupoi qui dit « Dans un pays où l'administration est forte, ce genre de problème est bien résolu et la gestion des ressources naturelles est bien gérée par les instances habilitées en la matière. Pour avoir une bonne traçabilité des minéraux et autres matières premières, que chaque personne qui occupe une fonction dans le pays arrête de ne voir que ses propres intérêts. » Nous ne savons pas lire tous les commentaires jeudi, sinon voilà en quelques lignes les réactions des internautes.
Merci Élise Kavira et merci à tous les internautes qui ont réagi par
merci
rapport à cette thématique. Excellente journée, à la prochaine. Bien, monsieur Jean-Claude Katende, vous êtes président de l'Association africaine des défenses et des droits de l'homme. Vous avez suivi tout ce que les internautes ont dit, votre réaction?
Je partage en fait tout ce qu'ils ont dit. C'est pour ça que quand ils parlent par exemple qu'il faut renforcer les organes de contrôle, c'est notamment l'ITIE. Vous savez que le président de la République a basé toute sa politique sur l'état de droit. L'état de droit a un pilier important, c'est la bonne gouvernance. Et dans la bonne gouvernance, il y a une partie importante aussi, c'est la transparence. Mais si déjà ceux-là même qui prônent l'état de droit ne sont pas en mesure de prendre en charge une initiative aussi importante comme l'ITIE, qui aujourd'hui n'a aucun fonds pour pour financer son fonctionnement et ses activités. Comment voulez-vous que nous puissions avoir une gestion saine de nos ressources? Au-delà de questions de transparence, il y a le contrôle. Il y a un auditeur qui a insisté beaucoup sur le contrôle. Il faut que la gestion, n'est-ce pas, de nos ressources soit contrôlée par des hommes et des femmes qui ont un comportement irréprochable. Mais c'est aussi un secteur dans lequel la corruption bat son plein.
Le secteur des industries extractives.
Exactement. Quand vous allez dans les mines, quand vous allez dans les pétroles, vous allez vous rendre effectivement compte que, par exemple, les questions environnementales, les différentes institutions qui ont en charge ces questions se montrent complaisantes. Quand vous voyez.
À cause de la corruption.
À cause de la corruption, bien sûr. Mais aussi du manque de renforcement des capacités des agents, mais aussi la prise en charge qui est faible. Si vous envoyez un agent contrôler comment l'entreprise X se comporte en matière de respect environnemental et que l'agent doit utiliser les instruments des mesures de l'entreprise pour avoir ses données.
Il est logé, nourri,
il est logé, nourri aux frais de l'entreprise.
C'est fini.
En fait, l'entreprise fait tout ça pour avoir un rapport qui lui soit favorable.
Bien sûr.
Et c'est pour ça que quand vous allez dans les lois là-bas, vous allez voir qu'il y a des entreprises qui déversent des résidus, des nettoyages, des minéraux dans les rivières. Et à Lubumbashi, il y a une entreprise, chaque fois qu'il y a la pluie, cette entreprise est située dans les environs de la prison Kasapa. Chaque fois qu'il y a des pluies qui tombent, pour vider leurs bassins, les bassins dans lesquels ils mettent des déchets ou des eaux usées. Et ça va dans la population.
Ça va créer des pollutions, tout ça.
Exactement. Mais les autorités de la ville de Lubumbashi ne réagissent pas.
Ferment les yeux.
Et on peut soupçonner qu'il y a des cas de corruption là-bas.
Alors, vous avez fait votre déclaration, c'était à l'issue de la télé d'évaluation de la participation de la société civile dans la mise en œuvre du processus ITIE. Cet atelier a eu lieu du 5 au 7 mars dernier. Alors, vous avez identifié les forces et les faiblesses de votre participation. Il a été constaté, par exemple, la baisse de l'engagement politique du gouvernement. Le gouvernement s'est abstenu volontairement de financer la mise en œuvre du processus ITIE. Vous dépendez aujourd'hui beaucoup plus des partenaires. La fermeture du site internet de l'ITIE, faute de paiement, les refus du gouvernement de signer le nouveau décret portant création, organisation, voilà, et fonctionnement du comité national de l'ITIE, etc. Alors, vous avez identifié un certain nombre de problèmes. Le secrétariat technique est mis dans les conditions telles qu'il ne peut pas assurer sa mission, manque des financements pour les activités, faible activité de renforcement des capacités. Et quelles sont les solutions que vous avez proposées après, à la fin?
Les solutions que nous avons proposées, vous avez un certain nombre de recommandations qui ont été faites à la première ministre, mais aussi au comité exécutif de l'ITIE RDC. Je vais répondre quelques recommandations pour la première ministre. La première recommandation, c'est de prendre des dispositions urgentes pour que les moyens financiers soient mis à la disposition du comité exécutif de l'ITIE RDC. Deuxième recommandation, signer le décret portant création, organisation et fonctionnement du comité national de l'ITIE RDC. Troisième recommandation, s'assurer que les ministres ne soient pas représentés par leurs conseillers aux réunions du comité exécutif de l'ITIE RDC et au comité exécutif de l'ITIE RDC de prendre des dispositions pour que les protocoles de la participation de la société civile soient respectés, faire cesser toute entrave à la participation des acteurs de la société civile à l'ITIE et enfin s'assurer que les acteurs de la société civile bénéficient des formations nécessaires pour faciliter leur participation pleine, active et efficace à l'ITIE. Voilà l'ensemble des solutions que nous avons identifiées et nous espérons très rapidement, parce que nous courons le danger. Le danger, c'est quoi? Nous devons les rapports qui va servir à la validation de la République démocratique du Congo l'année prochaine, c'est le rapport 2023. Or, là, nous sommes en retard. Et ce qui se passe dans notre pays est que même le rapport qui a été publié l'année passée...
Rapport 2023 ou 2024
2022 a été publié l'année passée.
OK.
Et 2023 va être publié cette année.
OK.
Et c'est ce rapport qui va servir de base, n'est-ce pas, à la validation de la République démocratique du Congo. Or, il faut commencer un certain nombre d'activités pour que, en décembre, on ait les rapports. Et déjà, on est en retard. Parce que certaines activités, notamment le cadrage, parce qu'avant de publier le rapport, il y a ce qu'on appelle l'étude de cadrage. L'étude de cadrage permet de faire la photographie de ce qui s'est passé au courant de l'année 2023 dans les secteurs extractifs. Ça, ce n'est pas fait.
Et comment vous faites ce cadrage-là?
Le cadrage a été confié au secrétariat technique. Et le secrétariat travaille principalement avec les institutions publiques qui lui fournissent des informations. Et sur base de ces informations, on établit on établit l'étude de cadrage qui va nous permettre de comprendre sur le plan juridique, sur le contexte, qu'est-ce qui s'est passé dans les secteurs miniers, mais qui permet aussi de comprendre quelles sont les recettes que le gouvernement a fait et quelles sont les entreprises qui ont participé à ce paiement. Et c'est cette étude dont l'administrateur indépendant, c'est un cabinet international qui aura mandat de rédiger les rapports ITIE sur décision du comité exécutif. Et donc, on est en retard. Et la République démocratique du Congo, dans le cadre de la mise en œuvre de l'ITIE, nous a habitués à des retards.
Mais pourquoi le gouvernement ne finance plus?
C'est la question que nous nous posons et vous voyez bien les termes que nous avons utilisés dans notre déclaration. Mmh. Le gouvernement s'est abstenu volontairement de financer la mise en œuvre de l'ITIE en République démocratique du Congo, ce qui fait que aujourd'hui la mise en œuvre de l'ITIE dépend principalement de la Banque mondiale. Ce qui n'est pas normal. Si on veut de la transparence, les ministres du budget et les ministres des finances doivent se mettre en tête qu'ils ont l'obligation de donner l'argent à l'ITIE. À moins que le ministre des finances et celui du budget nous disent qu'ils sont anti-transparence. Et alors on peut comprendre, parce qu'il n'y a aucune raison qui puisse justifier qu'une initiative aussi importante et dont le travail a contribué, comme par exemple le travail de l'IGF, à réviser les contrats SICOMINE.
Oui.
Parce que beaucoup
c'était
des gens...
C'était grâce au rapport de l'ITIE.
Exactement. Et beaucoup des gens oublient que la première institution à avoir fait un rapport accablant sur le contrat SICOMINE, c'est l'ITIE. Et ensuite, c'était l'Inspection Générale des Finances. Mais une initiative qui contribue à autant de changements, qui permettent d'ailleurs à l'État de pouvoir empocher encore beaucoup d'argent de ce contrat, ne soit pas financée. Tout simplement parce que deux ministres ont décidé de ne pas le faire. Et c'est là que nous interpellons la première ministre.
Et à quel moment le gouvernement ne finance plus?
Ça fait 6 mois.
Depuis six mois
que le gouvernement ne finance pas l'ITIE, et c'est depuis quelques mois aussi que les agents de l'ITIE ne sont plus payés. Les loyers du bureau n'est plus payé. Et aujourd'hui...
Le site internet est fermé.
C'est un recul énorme. Même du temps du président Kabila, je dois faire cette comparaison importante. Et particulièrement quand M. Matata était Premier ministre, l'ITIE ne manquait pas de ressources. Et donc, aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi les ministres des Finances et les ministres du Budget s'abstiennent de financer l'ITIE. Et aujourd'hui, comment voulez-vous
que
l'ITIE...
Est-ce que vous avez écrit à plusieurs fois...
Ils ont été saisis. Le ministre des Finances est membre du comité exécutif de l'ITIE. Donc, on ne comprend pas. Et c'est pour ça que nous disons que cette opportunité, n'est-ce pas, que la radio Okapi nous donne, nous permet de dire au peuple congolais qu'il y a un problème. Qu'il y a un problème, parce que l'initiative des transparences, elle est parmi les rares dans lesquelles on retrouve la société civile, c'est-à-dire les citoyens. Et donc, nous, en tant que citoyens, nous avons pris notre courage en main pour pouvoir en parler publiquement. Bah, on en a parlé depuis des mois et des mois dans les réunions du comité exécutif, mais les ministres qui sont directement concernés donnent l'impression de ne pas comprendre que c'est important de financer l'ITIE.
Bien, on va accueillir Justin depuis Bounia. Bonjour Justin, quelle est votre préoccupation?
Merci M. Joly de m'avoir associé à cette émission. Oui, M. Joly, c'est une question à poser à l'invité. Oui, Michel l'invité, je me suis pour la première question. Oui, quel est le rapport que le ministre de l'Environnement peut donner par rapport aux zones occupées? Vous dites que l'environnement n'est pas financé, ça fait presque 6 mois. Mais il y a des zones occupées par des groupes armés. Par exemple, si vous partez là, on exploite par exemple à Rubaya, dans les hauts plateaux des mines, là où les groupes armés sèment des terres. Quels sont les rapports qu'on peut donner ou les bilans qu'on peut évaluer quant à ça? La deuxième question pour terminer.
Oui.
Monsieur Jody, vous savez que ici chez nous, quand je vois les services, les agents de l'environnement, on dit que le Congo c'est un pays solution. Mais je l'ai toujours dit, pour moi, c'est un pays problème aujourd'hui. Parce que nous avons la forêt équatoriale qui ne nous amène absolument rien. Nous avons tout l'essentiel dans ce pays, mais rien ne marche.
Alors, quelle est la question? Quelle est la question que vous adressez à l'invité?
Oui, monsieur l'invité, merci. Qu'est-ce que l'IGF fait? Comment l'IGF peut mettre fin à toutes les spéculations de l'ITIER en ce qui concerne l'environnement et que ce soit les agents et pour que la population aussi a bénéficié? Merci, monsieur Jody, et bonne journée.
Bien, merci Justin de Bounia. Monsieur Jean-Claude, est-ce que l'ITIE peut rédiger son rapport avec cette crise sécuritaire alors qu'il y a des territoires, des républiques, des provinces qui sont occupées et où on fait aussi l'exploitation? Il a parlé des Rubaya, tout ça, Minembwe, où les rebelles, disons les agresseurs, sont en train d'exploiter nos ressources naturelles.
Il a parfaitement raison et je pense que la blague qu'il nous a faite en disant que le Congo n'est pas un pays solution, mais un pays problème. Et moi, je ne vais pas aller dans cette direction. Je dirais tout simplement que quand on dit que le Congo est un pays solution, solution pour qui? Est-ce que c'est un pays solution pour les Congolais ou un pays solution pour les Occidentaux? Et je pense que le Congo devra être un pays solution d'abord pour les Congolais. Ça, c'est important. Souvent, quand nos autorités parlent des pays solutions, c'est pour les Occidentaux.
Oui. Et pas pour les Congolais.
C'est pas pour les Congolais. Et ça, c'est un sujet de préoccupation. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de la transition énergétique où le Congo va jouer un grand rôle. Mais quelles sont les retombées de cette transition?
Toutes les matières pour les dont le monde a besoin se retrouvent ici.
Exactement. Mmh. Et aujourd'hui, notre gouvernement négocie avec les Américains pour qu'ils s'intéressent aux minerais stratégiques qu'il y a au Congo. Mais ces accords, nous espérons, qu'ils vont être gagnant-gagnant pour les Américains et pour les Congolais. Et que les ressources qui vont être générées de ces accords vont pouvoir être investis dans la communauté et principalement pour assainir cet environnement.
Et l'ITIE... Je pense que l'ITIE aura tous ses rapports, là, vous aurez tous les documents, les
Non, mais comme vous le savez, dans le cadre de l'ITIE, tous ces accords doivent être rendus publics. C'est vrai que les premières discussions ont commencé, mais nous restons attentifs pour qu'une fois les accords signés avec les Américains, que les citoyens congolais puissent être au courant. D'ailleurs, nos lois exigent que dans les 60 jours de la signature des accords portant sur les ressources naturelles, que ces accords soient rendus publics. Donc les autorités, si elles sont respectueuses de lois congolaises, se soumettront à cette obligation, sans oublier que le conseil d'administration international de l'ITIE va avoir certainement un regard sur ces questions. Mais comme vous le savez, le rapport ITIE touche aussi des questions qui sont liées à l'environnement. Comment les entreprises se comportent? Mais il faut dire que c'est vrai que le rapport ITIE rend compte de ce que les entreprises font en matière environnementale, mais il est question aussi dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, dans les lois là-bas comme partout au Congo, que les institutions, les organismes qui ont en charge la protection de l'environnement puissent travailler effectivement dans le sens de faire respecter l'environnement par les entreprises minières. Nous savons que, particulièrement pour les entreprises minières, les mines sont épuisables. Un jour, les mines vont prendre fin. Mais il faut que notre environnement soit un environnement protégé pour que nos enfants et les enfants de nos enfants héritent d'un pays assaini et d'un pays où il fait beau vivre.
Alors si l'ITIE, cette initiative n'est plus financée par le gouvernement, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de moyens ou c'est parce que la transparence dérange et on veut entretenir une certaine opacité?
Oh, mais les moyens, vous connaissez l'affaire Forage, non? L'affaire Forage où il y a eu des millions, on a acquitté tout le monde, mais l'argent n'est pas là.
L'argent?
C'est quand même scandaleux. Donc, il y a de l'argent qu'on investit ailleurs, mais on évite d'investir sur l'essentiel. Je ne dirais pas jusqu'à ce qu'il y a une volonté d'instaurer l'opacité. C'est pour ça que nous lançons cet appel. Il est important que les ministres des Finances et les ministres du Budget libèrent l'argent destiné à la transparence, parce que cette transparence, elle est importante. Aujourd'hui encore, la transparence reste importante parce que la guerre d'aujourd'hui qu'on fait au Congo et les guerres de demain qu'on fera au Congo, parce que nous ne devons pas oublier que cette guerre ici ne sera pas la dernière. Tant qu'on aura des ressources recherchées par tout le monde, les gens voudront toujours nous déranger. Et nous devons nous préparer en conséquence, former nos enfants en fonction de cet objectif. C'est pour ça, quand je parle des ressources naturelles aux jeunes, qu'ils soient de Kinshasa ou d'ailleurs, je leur dis toujours, vous ne pouvez pas être un bon président, un bon ministre, un bon dirigeant en République démocratique du Congo si vous ne maîtrisez pas les questions liées aux ressources naturelles. Parce que quoi qu'il arrive, la gestion du Congo sera toujours perturbée par les questions des ressources. Et il faut comprendre les enjeux, tant au niveau national qu'au niveau sous-régional et au niveau aussi international. Et donc, il est important que les ministres des Finances, M. Fwamba, qui semble avoir une bonne réputation, tout ça, mais là, nous sommes quand même déçus de constater qu'il constitue un obstacle, une entrave à une initiative aussi importante.
Ou peut-être
pour
à cause de l'effort de guerre. Actuellement, tout est concentré à l'effort de guerre.
Oui, mais
vous le savez bien.
Mais l'État, le président de la République a demandé à ce qu'il y ait réduction du train de vie des institutions. C'est évidemment pour qu'on dégage des ressources pour faire, pour contrer cette guerre d'agression que nous avons toujours condamnée, mais en même temps pour financer certains secteurs qui sont prioritaires, notamment les secteurs des ressources naturelles. Je pense que c'est important.
Voilà, c'est important de financer ces secteurs. Mais pourquoi, vous avez dit qu'il y a une certaine tendance à écarter de plus en plus la société civile. Pourquoi?
Non.
Parce que la société civile gêne un peu, un tout petit peu.
Non, nous n'avons pas dit qu'il y a tendance à écarter, mais il y a tendance à entraver le travail de la société civile. Je vous ai donné les cas de nos collègues. Il y a encore un autre collègue qui a été inquiété à Colusie. Hein, les collègues Léonard Nzama, qui a été inquiété à Colusie en rapport avec ses activités. Vous voyez, l'ITIE, quand vous lisez la norme et les protocoles sur la participation de la société civile, on veut que les citoyens s'expriment de manière libre. La liberté d'expression. Parce qu'on ne peut pas avoir des changements dans les secteurs des ressources naturelles si les citoyens ne peuvent pas soulever leurs préoccupations. Et l'ITIE garantit cette liberté d'expression et exige à ce que les acteurs de la société civile s'expriment sans être menacés, sans des représailles, bien sûr dans les limites de la loi, mais qu'ils aient cette liberté d'expression. Et je vous ai donné quelques cas de mes collègues qui ont été inquiétés. Et pour nous, nous avons demandé à l'ITIE de prendre des mesures pour que ses collègues soient protégés et que les personnes qui les intimident ou les institutions publiques qui les intimident mettent fin à cette intimidation parce que ça risque de coûter 2 points à la République démocratique du Congo à l'évaluation actuelle. Et nous, nous allons soulever ces questions pour démontrer que la société civile, il y a quand même des collègues qui sont victimes des menaces d'arrestation de la part des institutions de l'État.
Voilà, bon, vous savez, le secteur minier, il y a à manger, à boire. Il y a certaines, comme vous l'avez reconnu d'ailleurs, certaines autorités qui exploitent les minerais via les membres de leur famille, etc. Il y a des généraux, il y a des hauts cadres, voilà, qui sont là-bas. Et parfois, lorsque la société civile veut un peu fouiner trop, connaître tout ce qui se passe, ça dérange.
Vous avez effectivement raison, mais c'est notre travail que la Constitution nous reconnaît, en même temps que l'ITIE nous reconnaît. Ceux qui exploitent les minerais comme les généraux, c'est en violation de la loi. Mais si les généraux sont impliqués dans l'exploitation des ressources, quand est-ce qu'ils vont faire la guerre? Et nous avons dénoncé cette question plusieurs fois en ce qui concerne l'Est de notre pays. Et aujourd'hui, cela a aussi des conséquences sur la manière dont nos hommes des troupes se comportent. Il faut que les militaires soient bien payés pour qu'ils se consacrent pleinement à leur travail sans avoir l'envie de compléter les mois avec des ressources qui viennent des secteurs ou des activités illicites.
Bien, merci beaucoup Monsieur Jean-Claude Katende. Je rappelle que vous êtes président de l'Association africaine des défenses des droits de l'homme.
C'est moi qui vous remercie.
Excellente journée et à la prochaine.
Merci.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de l'avoir suivi. Polydor Basunga assurait la mise en onde. Tati Mapoukou était à la coordination et à la réalisation. Jeudi, Daniel Kachama au micro. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence et la paix. Excellente condition d'écoute des programmes sur Radio au Capi.